Bonjour et bienvenue au One Eye Club, le podcast BD qui invite même les fans de Zelda.
Vous êtes donc sur le One A Club, je suis One A Pied, votre hôte habituel. J'ai à mes côtés Thio qui m'accompagne comme à son habitude.
Toujours très proche.
Toujours très proche. Et nous recevons aujourd'hui pour ce hors-série, Sylvain Vaucher alias Merton. Salut.
Salut.
Alors Merton, on va parler un peu de tout ce que tu fais autour de la BD. Et il y a pas mal de trucs, j'ai l'impression, à raconter.
Un petit peu.
Alors, on va peut-être commencer à parler de ton dernier bébé, qui s'appelle Merton fait sa bulle. Donc c'est un site que tu as lancé. L'adresse, si je me souviens bien, c'est, vas-y, dis-le, tu me diras mieux que moi.
Alors, c'est www.merton.fr.
Tout simplement. Voilà. Et donc après un petit changement de micro suite à une panne intempestive, nous allons de nouveau continuer la conversation avec Merton. Et nous allons parler de Merton fait sa bulle. Donc Merton fait sa bulle, c'est un ton dernier bébé, ton dernier projet. Alors qu'est-ce que c'est que Merton fait sa bulle?
Alors oui, c'est vraiment un de mes derniers projets, vu que c'est sorti là il y a juste quelques jours. Et en fait l'idée, c'est que comme j'avale énormément de BD avec mon boulot chez BDO, je me suis dit que autant en faire profiter un peu tout le monde en faisant une petite émission courte où il y aura une chronique de 3-4 BD grand max, puis un petit moment un peu plus fun où on parlera un peu d'autre chose. Et comme c'est vrai que je lis pas mal de BD, il y a des coups de cœur, des trucs que j'aime moins, puis j'ai préféré me dire autant parler vraiment des coups de cœur et des trucs sympas pour faire partager ça au plus grand nombre.
D'accord. Techniquement, tu te débrouilles comment? Parce que j'ai vu que c'était plutôt pas mal fait. Enfin, surtout au niveau, j'ai vu que tu avais quand même droit à un petit micro cravate. Tu as fait un habillage qui est plutôt sympathique. Donc, tu as un très bon son là-dessus. C'est ce micro-là que t'aurais dû amener. tu as donc, quelque chose de qui est plutôt pas mal. C'est quoi? C'est du matos perso, du matos que t'as acheté pour l'occasion?
Alors en fait, je bosse avec un de mes très bons potes qui s'appelle Frind sur Internet.
Ouais.
Et il travaille avec nous sur BDO. C'est aussi lui qui fait tous les petits habillages autour des interviews vidéo qu'on peut avoir. C'est lui qui gère aussi tout ce qui est interviews vidéo. Et comme nous, on bosse quand même beaucoup sur le net et qu'on a besoin de matos, on utilise le même matos pour les interviews vidéo et pour Merton fait sa bulle, en fait. J'ai récupéré des choses. Et donc Frind est aussi plutôt doué pour faire des habillages. On a déjà bossé avant sur d'autres courts-métrages et c'est lui qui faisait tout ce qui était générique et habillage. Donc du coup je l'ai pris là-dessus et c'est vraiment on bosse en duo quoi. C'est tous les deux, c'est lui qui fait, on a un système d'éclairage vachement bien, enfin c'est lui qui fait tout l'éclairage, qui fait tous les habillages derrière. Donc il y a eu un gros boulot là-dessus, mais maintenant on est parti et ça devrait vraiment le faire.
Parce qu'il y a une belle base, bien, enfin pour quelque chose qui vient d'être lancé, c'est assez pro. C'est moi j'ai bien aimé. Juste quelques trucs qui m'ont, j'en profite là, qui serait peut-être à revoir, c'est comment quand tu montres les BD en fait sur l'image, étant donné qu'il y a un endroit qui est prévu pour les montrer dans l'habillage.
La mélodie finie.
Ouais, je trouve que c'est un peu redondant, c'est pas forcément. Parce qu'on voit pas forcément bien celle que tu montres toi. Et on voit très très bien celle de l'habillage forcément.
Non, mais en fait, c'est que cette idée-là de l'habillage sur le côté est venue après qu'on ait tourné la première. Donc, et même la seconde, parce que la deuxième est déjà dans la boîte en fait. Et du coup, ce sera en ligne jeudi prochain. Mais c'est amené
en fait, c'est déjà en ligne.
Quoi? Je suis pas au courant.
Déjà.
Là, mon pote est justement en train de bosser pour tout ce qui est montage et justement habillage, tout ça. Et en fait, cette idée lui est venue, cette idée de faire le côté BD. Il l'avait dès le début, mais il n'arrivait pas trop à gérer, à faire un truc joli. Et l'idée de mettre la caricature sur le côté lui est venue qu'après. Et c'est vrai que du coup, ça rend très bien, même quand il n'y a pas forcément des incrustations. Et d'ailleurs, je tiens aussi à remercier Jacques Muller, c'est lui qui a fait la petite caricature de moi, en fait.
Ouais.
Et c'est un très très grand monsieur. Il a bossé sur Roger Rabbit, il a fait les animations de Jar Jar Binks sur Star Wars, ce genre de choses.
Ah non, mais là, Jar Jar Binks pour Star Wars, on peut pas le pardonner.
Non, mais juste les animations.
Roger Rabbit, ça va. Roger Rabbit, c'est la classe.
Il a bossé plusieurs années chez Disney aussi, sur Bernard et Bianca, ce genre de choses. Wow. C'est un grand monsieur. Et il a eu la gentillesse de me faire une jolie caricature de moi, donc voilà, c'est super chouette.
Oui, c'est très très chouette. Alors, en tout cas, bonne chance avec cette émission qui est très sympa. Mais ton activité principale, donc, c'est BDO. Alors, j'ai regardé un peu avec ta signature, tu es chef de projet sur BDO chez Triple C. Alors, Triple C, j'imagine que c'est la boîte qui gère. Alors, c'est de me poser la question de ce que voulait dire Triple C. On a eu plein d'idées, mais pas forcément à dire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un peu que ce projet BDO, comment est-ce qu'on se retrouve chef de projet là-dessus, surtout que tu étais assez jeune quand même. Comment est-ce que se monte un site sur la BD? BDO, ça date déjà de quand? Ça date de quand, BDO?
Ça a 3 ans.
3 ans, ouais.
On a fêté notre 3e anniversaire il n'y a pas très très longtemps. Et on va fêter, là en fait, la nouvelle version du site doit avoir à peu près 6 mois. Et moi, je suis arrivé vraiment sur BDO. Avec la nouvelle version.
Avec la nouvelle version, d'accord.
Voilà, et c'est vrai que, comment on arrive là, je dirais complètement par hasard. Moi, je viens d'un monde complètement différent, et c'est vrai que j'étais pas forcément un gros bédécile, mais je me suis retrouvé à gérer ça, à gérer tout ce qui est BDO, parce que je gère évidemment le côté édito. Mais il y a tout ce qu'il y a derrière, parce que c'est quand même un gros site et il y a quand même beaucoup de tâches. Et voilà, mais c'est vraiment complètement par hasard que je suis arrivé là. Hein. Vraiment, on m'aurait demandé, ne serait-ce qu'il y a un an, on m'aurait dit tu vas bosser sur un site BD, je l'aurais pas cru.
Donc la BD, enfin tu connaissais, tu devais en lire, j'imagine, vu que tu as un beau profil de geek. J'ai vu ta passion pour Zelda dans le Merton fait sa bulle, et donc tu t'es mis à lire de la BD encore plus pour BDO. Mais à la base, t'avais quand même un intérêt là-dessus, ou tu as découvert des trucs que tu connaissais pas?
Alors en fait, j'avais un intérêt pour la BD, mais je pense comme à peu près tout le monde, c'est-à-dire que on a tous plus ou moins des BD, on connaît au moins les classiques, et puis après. Je pense qu'on a tous, enfin peut-être pas tous, mais traîné un peu dans des Fnac, des trucs comme ça, à lire un peu les BD qui traînaient. Mais là, l'avantage, quand on est sur ce genre de gros site à grosse audience, c'est que les BD, on les reçoit en direct, et du coup, on va vers des choses vers lesquelles on ne serait pas forcément allé. En fait, j'ai fait beaucoup de découvertes que j'aurais pas fait si je bossais pas pour BD ou ça.
Tu disais quoi avant de bosser chez BDO comme BD?
Oh là là, en fait, ça me paraît vachement loin maintenant avec tout ce que j'ai avalé. Enfin, ça me paraît très loin. Moi, comme je disais, je sais que je t'ai envoyé la liste. J'étais un grand fan de Lucky Luke, par exemple. Je pense que j'ai vu.
On en reparlera tout à l'heure de Lucky Luke.
Ouais, je pense que je les ai quasiment tous. Quand j'étais gamin, j'ai lu à peu près Tintin, etc. Tout ça. Après, j'ai découvert L'Enfeu. Donc gros coup, parce que c'est vrai que tout d'un coup ça change complètement. Ah, mais c'était plutôt vraiment, moi j'étais dans les hits, quoi, un peu tout ce qu'on voit en fait de gondole dans les grands magasins, et c'était vraiment ça que je lisais, parce que j'étais pas plus un passionné de ça, en fait.
D'accord.
Et au fur et à mesure, j'y suis venu, et c'est vrai que j'ai découvert plein de choses vraiment vraiment super chouettes.
D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, donc Triple C, c'est la boîte qui gère différents projets, dont le projet BDO.
C'est ça.
Et toi, donc, tu es chef de projet sur BDO, carrément.
Exactement.
Donc tu gères une équipe, j'imagine, avec tout ce qui est technique, tout ce qui est éditorial. Vous êtes combien à bosser sur BDO?
Alors, on est combien? C'est-à-dire qu'on a donc tout ce qui est partie technique, où on a deux personnes qui sont dessus quasi tout le temps pour... On a des projets de développement qui devraient arriver, et donc on a deux personnes qui travaillent dessus. On a quelqu'un qui gère tout ce qui est graphisme aussi, pour faire des jolis premiums, des jolis trucs, ou les habillages. On a donc des gens qui gèrent tout ce qui va être plutôt le côté commercial, publicité. On a un peu tout le monde aussi qui fait de la rédaction, parce qu'on aime tout ça. Donc, comme ça, je sais pas, parce qu'on n'est pas tous à temps plein non plus dessus. Donc, mais c'est quand même une grosse équipe.
D'accord. Alors, on va arriver sur les questions super techniques. Tu travailles chez BDO, donc tu gagnes ta vie chez BDO, tu gagnes ta vie en recevant des BD et en parlant. C'est la classe.
C'est ça.
C'est le rêve.
Ouais. Maintenant, la question, c'est ton employeur, quel est son business plan? Quel est le modèle économique de BDO, en fait? Comment est-ce qu'un site arrive à apporter de l'argent là-dessus?
Bah, je pense que c'est comme beaucoup de sites web, hein, c'est la publicité qui nous fait vivre. C'est-à-dire qu'on a on travaille en partenariat avec des éditeurs qui viennent diffuser de la publicité pour se la sortir. On travaille beaucoup par exemple avec Dena, qui nous a toujours fait confiance. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un gros éditeur comme ça qui nous soutient beaucoup et qui. Enfin, on sent qu'il y a un amour de la BD parce que vraiment il y a un soutien depuis le début, quoi. On bosse aussi beaucoup avec Galcourt, on bosse beaucoup avec. Donc on a des éditeurs qui nous soutiennent et avec qui on travaille, avec Dupuis aussi beaucoup. Et
ouais.
en faisant de la publicité, on arrive à faire tourner le site, quoi, parce qu'il n'y a pas que moi évidemment qui vit là-dessus, mais on arrive à avoir un site qui tourne. Et c'est vrai que quand on veut avoir un gros site, un beau site avec beaucoup d'éditos et beaucoup de choses, tout de suite ça coûte de l'argent, parce que c'est évident.
Comment est-ce qu'on arrive à s'imposer sur Internet? Donc BDO, c'est récent, ça a 3 ans. Alors que il y a quand même pas mal d'autres. Il y a 3 ans, il y avait déjà pas mal de sites très présents sur la bande dessinée. Donc, je pense forcément à BDGest, BDTech, qui est le gros site présent. Comment est-ce qu'on arrive à faire la différence pour se faire remarquer? Et puis, en gros, vous êtes arrivé sur un marché où il y avait déjà quelqu'un et où il va falloir que vous arriviez à vous faire connaître, à gagner un auditoire suffisamment grand pour que vous puissiez gagner votre vie aussi de votre côté.
Mais nous, on n'a jamais pris ça comme des concurrents, c'est-à-dire qu'on est, il y a beaucoup de sites sur la BD, hein, il y a pas que, bon, il y a évidemment BDTech, mais on peut en parler, il y a Scénario, il y a Planète BD, enfin, il y a beaucoup de sites, et nous, on travaille main dans la main avec beaucoup de sites web, je pense à Scénario, par exemple, même Planète BD, on bosse avec eux, on est potes avec eux, nous, on travaille aussi avec, on a une régie publicitaire, enfin voilà, donc on bosse avec eux et il n'y a pas de souci. Je pense que au contraire, la BD, c'est pas forcément il n'y a pas forcément beaucoup, énormément d'argent, surtout dans la com. Si on bosse pas ensemble, on est mort. Donc autant bosser en bonne entente plutôt que de se dans les pattes, ça sert à rien.
Ouais.
Et c'est comme ça que nous on a réussi à avoir notre petite vie sur le web. En fait, c'est en bossant avec les autres sites web plutôt qu'en les considérant comme des concurrents.
Oui, ok. C'est avoir plusieurs points de vue sur le même sujet. C'est vrai que c'est jamais un mal.
C'est ça.
Je valide.
Tu valides? on attend un podcast BD généraliste pour nous concurrencer. Je crois pas.
Ouais.
Qu'il y en,
ait.
En audio.
En audio, non, peut-être pas. Mais après, pour le reste, oui.
Oui, pour le reste,
on est à la masse.
Ouais. Est-ce que tu as des questions de ton côté?
Non, pas tout de suite.
Non, t'es au point. Eh bien, on va pouvoir attaquer un peu notre sélection. Donc, on va retrouver les rubriques habituelles du One Eye Club. Et on commence avec notre presque neuf. Et tu nous as donc parlé de Doggy Bags, qui est un peu un coup de cœur du moment, quelque chose qui t'a bien plu. Qu'est-ce que Doggy Bags?
Alors, Doggy Bags, c'est un vrai hommage au film Grindhouse, c'est-à-dire tout ce qui va être Tarantino, Rodriguez, ce genre de film-là. Et c'est le label 619 qui a lancé ça, donc c'est chez Ankama. Et c'est Juan, Modou et Saint-Gelin qui font chacun une petite histoire dans un univers très tarantinesque. Alors, je ne sais pas si c'est ça que je dis, mais voilà. Et chacun a sa petite histoire, c'est donc évidemment une identité à chaque fois différente. La première histoire est complètement barrée, c'est une histoire de loup-garou biker, enfin voilà, c'est super drôle, enfin c'est vraiment génial. On a une histoire aussi d'un flic ancien champion de combat qui va essayer de trouver dans le désert un mec qui a dérobé un truc dans une vieille station-service. Vraiment, enfin, voilà, c'est vraiment ce genre
de... Et tout ce côté série Z.
Exactement.
Sauf
ça.
Que là, c'est totalement assumé avec du gros délire n'importe comment, de la violence, du sang, du sexe. Et...
Il y a dans la deuxième histoire, c'est des yakuza aussi, enfin, avec des trucs complètement barrés. C'est vraiment génial.
Ok. C'est quoi qui t'a, en dehors du thème, du thème qui t'a branché là-dedans, est-ce que tu penses, parce qu'apparemment il va y avoir une suite à Doggy Bags, moi j'en ai un peu entendu parler, je l'ai pas lu, hein, mais j'en ai entendu parler, ils cherchaient des auteurs d'ailleurs, le label 619 pour continuer, qu'est-ce qui t'a vraiment le plus branché dedans, c'est la variété des styles, la variété graphique,
Ce que j'aime bien, c'est cette idée que on donne juste un thème, et un thème qui est vraiment très très vaste, et chacun peut s'approprier ça pour faire quelque chose de complètement perso, et on navigue en une BD dans différents styles, dans différents univers, et c'est vraiment super plaisant. Moi, j'aime bien ce concept d'histoire courte et qu'on va retrouver au fur et à mesure. Enfin, moi, je trouve ça chouette.
Oui, c'est de la BD, pas prise de tête, totalement défoulatoire.
C'est ça.
Il y a une bande-annonce d'ailleurs pour Doggy Bags qui est super géniale. Ils se sont fait un truc, on dirait vraiment du Tarantino, du Rodriguez même plus, je dirais.
Plutôt du Rodriguez,
parce que,
ouais.
Parce que je suis fan de Rodriguez. Donc, c'est vraiment une superbe bande-annonce où ils se sont fait un délire. T'as les auteurs qui jouent un peu leurs personnages avec le chinois sniper, le truc.
Ouais, tu me montres ça.
Ouais, non, mais il faut. Enfin, je pense qu'il faut avoir vu cette bande-annonce parce qu'ils se sont vraiment, tripés à l'affaire, ça se sent. Et lire la. Enfin, vraiment lire cette BD, c'est un vrai conseil parce que j'ai bien kiffé.
Doggy Bags, c'est un projet d'Ankama. Nous, on en parle de plus en plus d'Ankama parce que c'est un éditeur qui fait de la BD depuis peu, mais qui essaye plein de choses vraiment originales. Tu suis ce que fait Ankama. Enfin, est-ce que t'as un intérêt particulier à ce qu'ils font? Parce que c'est vrai qu'ils font des choses vraiment étrange, pas forcément. Enfin moi, ce que je remarque chez eux, c'est que tout n'est pas de la même qualité, mais qu'ils essayent des choses que les autres n'ont pas le courage de tenter, je trouve.
Moi, ce que j'aime bien chez Ankama, c'est ça, c'est leur esprit. On se lance, on verra bien. Et on a vu avec Akiba, par exemple, comment ils se sont fait un peu taper dessus sur justement un peu la qualité de certaines BD. Enfin voilà, il y a des gens qui leur sont quand même bien tombés dessus, mais au moins ils y vont, ils essayent. Et il y a plein de jeunes artistes qui peuvent sortir grâce à ça. Et oui, enfin moi j'ai un intérêt tout particulier pour Ankama. Enfin, on s'entend plutôt bien. Et ils sont, enfin, voilà. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils font la plupart du temps. Et voilà, c'est vraiment pour le moment, enfin pour moi perso, c'est une maison d'édition que je surveille tout particulièrement.
Tu joues à Dofus?
Non, je joue pas à Dofus. Je pense que je suis un peu grand pour ça, mais.
Non, c'est pas vrai. Moi, j'y ai joué. C'est très sympa.
Mais mon petit frère jouait beaucoup à Dofus, et c'est vrai que c'est quand même super. J'ai l'impression que c'est super entraînant. C'est-à-dire que c'est un peu comme tous les MMO. Une fois que t'as mis le doigt dedans, j'ai décidé d'arrêter après World of Warcraft ce genre de truc. Il fallait plus parce que.
Non, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu-là, c'est les combats tactiques en tour par tour, ce qui est quelque chose de vraiment super bien foutu.
D'accord.
Voilà.
Mais c'est vrai que. J'y ai joué avec le compte de mon petit frère, enfin, c'est pas lui dire, mais
plus personne lui parlait après, il savait pas pourquoi.
non, mais c'est vrai que c'est, mais et c'est ça qui est bien aussi chez Ankama, c'est-à-dire qu'ils ont commencé avec le jeu vidéo, ils se sont dit tiens on va faire de la BD et c'est un vrai projet global et ça c'est vraiment super cool et ils font plein de trucs sur le net aussi et ça c'est bien plaisant.
Ok, on va passer à notre deuxième bande dessinée. Ouais. Je t'en prie, je te laisse lancer ça un peu.
Bon, en même temps, du coup, je reviens juste sur Ankama, tu vois. Ouais. Sur nos idées, on rejoint ce qu'on a dit dans l'épisode 28 sur le One.
Voilà.
Parce qu'on a parlé justement de Akiba aussi.
Épisode que tu n'as pas pu entendre car il sera en ligne demain à l'heure où nous enregistrons.
D'accord. En plus, oui, là, je me disais, tiens, c'est bizarre, j'ai pas, enfin, ça ne dit rien, mais je comprends.
Voilà. Non, on en parlera un petit peu plus tard. Enfin, pour toi, mais nos auditeurs qui nous entendent maintenant l'ont peut-être déjà entendu.
Bah oui, du coup, oui, enfin, j'espère. Oui.
c'était prise de tête, hein, ces histoires de gestion du temps.
Alors, donc, on passe à la suite, on passe à Zombilennium.
On passe à la suite, ouais.
Eh ben voilà, on passe à la suite, je l'ai refait, ça faisait quelques fois que je l'avais dit. On passe à la suite avec Zombilennium, donc.
D'accord. Alors, Zombilennium, c'est une BD qui est sortie il y a quand même un petit bout de temps maintenant, d'Arthur de Prince, qui, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais qui raconte donc l'histoire d'un mec qui va être ramené dans un parc d'attractions super spécial, parce que tout le monde a l'impression que c'est des gens qui sont déguisés en zombies ou en momies, mais en fait, ce sont des vrais zombies et des vraies momies qui font tourner un parc d'attractions à côté de Valenciennes. Et il y a un petit côté vraiment
super. C'est le côté à côté de Valenciennes. Ouais, rien Valenciennes, que ça fait rêver. Ça pose le ton, tu vois.
C'est le ton de tout l'album est comme ça. C'est-à-dire que ça commence par une réunion des actionnaires démoniaques qui explique que Disneyland soit premier dans le classement, ça va, mais que Vulcania soit passé devant le Zombilennium, vraiment ça pose problème. Et ils cherchent des nouvelles solutions pour remonter ça, donc avoir des plus gros monstres, avoir des trucs qui font vraiment peur, parce que malgré le fait que ce soit des vrais zombies, des vrais, ils n'arrivent pas à vraiment faire peur à la population locale. Et du coup, ils vont chercher des nouvelles attractions. Il y a un pauvre mec qui va se faire embrigader là-dedans par la petite Gretchen, qui est une petite sorcière, qui va le transformer en gros monstre un peu bizarre. Enfin, voilà, c'est vraiment super sympa parce que il y a le trait déjà d'Arthur de Pince qui est le trait d'Arthur de Pince. Enfin, vraiment, on peut pas dire autre chose parce que c'est juste génial ce qu'il fait.
Bah, nous, on a parlé de la marge du crabe il y a pas longtemps. C'est quand même très différent d'un point de vue graphique. La technique, on la reconnaît, mais graphiquement, c'est quand même un autre style.
C'est ça, mais on est plus sur son, mais on est peut-être plus sur un trait comme sur Péché Mignon en fait.
Ouais.
On est sur ces traits-là, très ronds, très très colorés, enfin, et qu'on retrouve aussi quand même un petit peu dans la marche du crabe. Peut-être un peu moins parce que c'est plutôt ce qu'il avait fait en termes d'animation avant. Mais enfin, le trait d'Arthur de Pince là-dedans est génial et vraiment, enfin, le scénario est complètement barré. Il va y avoir un tome 2 qui devrait pas tarder à.
Oui, il est en pré-publication dans Spirou, où ils viennent de finir, je crois, dans le magazine Spirou.
Ouais, et du coup, le tome 2 devrait sortir bientôt et moi je l'attends avec une grande impatience parce que j'ai vraiment adoré le tome 1. C'est vraiment un gros coup de cœur.
D'accord.
J'en ai marre des invités qui nous donnent envie de lire d'autres bouquins, quoi.
Déjà qu'on a
du mal à suivre avec nos séries, en découvrant d'autres. Si en plus des invités nous donnent envie de lire d'autres choses, ça va être compliqué à la fin.
Oui, mais on y arrivera.
Zombie Lagnon, assez vite, hein, donc vraiment, c'est un bon conseil. Enfin, voilà, moi je dis ça, je dis rien, mais bon.
Non, mais c'est pas le temps de lecture, c'est le problème. Monsieur Portefeuille, des fois, il dit stop, quoi.
Ah oui, ça c'est sûr, oui.
Bien, donc Zombilennium, c'est Arthur de Pince tout seul qui le fait ?
Ouais,
donc il n'y a pas de scénariste comme sur Péché Mignon. D'accord.
Les premiers Péché Mignon, ils étaient tout seuls aussi. Hein.
Ils étaient tout seuls aussi ?
À partir du troisième.
D'accord. Ouais. C'est quelque chose que j'avais oublié, effectivement, tu me le rappelles. Eh bien, on était de parler de Péché Mignon, ça nous fait une transition magnifique, une belle transition, on attaque le rattrapage. Et donc, tu nous as parlé de Manara.
Ouais, j'ai parlé de Manara.
Et donc, tu nous en as parlé à deux reprises dans notre petit questionnaire de préparation.
Ouais, c'est rigolo.
Tu nous as dit une BD que tu ne lis que pour les images, tu dis les BD de Manara. Et une BD surévaluée, tu nous dis à peu près tout ce qu'a fait Manara quand il n'y a pas de scénariste.
Ouais, je pense que c'est ça, en fait. C'est-à-dire voilà. Que... Manara dessine tellement bien, et ça, enfin, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, que même quand il est scénariste, tout le monde dit que c'est formidable, alors que globalement, on voit bien que c'est pas fantastique.
Ok, est-ce que tu... Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'on trouve un truc qui soit bien typique. Est-ce que tu as une idée de quelque chose qui serait typique, justement, du Manara, qui aurait vraiment besoin d'un scénariste sur du Manara, genre une thématique qui était intéressante au départ et qui a été maltraitée derrière?
Le déclic, hein. Clairement, le déclic, pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une idée qui est pas si mauvaise que ça, mais il s'embourbe dans un truc, on sent bien qu'il n'arrive pas à s'en sortir, et très vite, ça perd de son intérêt.
D'accord.
Alors je sais que c'est devenu un grand classique, machin, mais moi j'arrive pas, quoi. Enfin vraiment, il manque une vraie histoire, quoi. Enfin, ça décolle pas, il manque quelque chose.
D'accord. Tu as lu, moi je l'ai feuilleté, le dernier truc qu'il a fait avec Chris Claremont sur les X-Men.
Alors ça, pas du tout, par contre.
Pas du tout. Parce que je l'ai feuilleté, je l'ai entendu. Alors il est un scénariste pour le coup, mais apparemment il aurait pu s'en passer, est-ce que j'ai cru comprendre. Et pourtant, Chris Claremont a été un très très grand monsieur sur les X-Men, et là c'est un peu raté. Et est-ce que, justement, en parlant de bande dessinée où il est un scénariste, est-ce que tu as lu un peu tout ce qu'il a pu faire, genre il a fait Borgia récemment?
Bah, sur du Borgia, enfin, je trouve qu'il s'en sort beaucoup mieux. Mais bon, il y a Jodorowsky qu'on connaît, enfin, c'est quand même aussi un grand scénariste. Et du coup, enfin, je trouve que ça marche beaucoup mieux, en fait, Borgia, par rapport
Pourtant, Jodorowsky, il peut partir dans du grand n'importe quoi, parfois. Hein.
Oui, et puis, enfin, je pense que là-dessus, Manara l'aide bien aussi, quoi, parce que Borgia, c'est quand même un peu hardcore. Mais ouais, c'est peut-être aussi le sujet qui s'y prête, mais je trouve que ça, là pour le coup, ça marchait bien. En fait, c'est vraiment cette différence-là que j'avais en tête, justement entre Borgia et des trucs comme des déclics, vraiment on se fait chier très rapidement.
Manara est donc connu pour sa superbe façon de dessiner des femmes, donc ça tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc c'est dans le dessiné érotique, voire pornographique, qu'il a pu faire. Par contre, il y a aussi des bandes dessinées qu'il a fait qui, justement, n'avaient aucune volonté à l'érotisme, même si dès que Manara dessine une femme, forcément, c'est érotisant.
Ça va être difficile.
Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà.
Il était classe, hein. C'est aussi, oui, on l'a mis dans cette case-là, quoi. Et dès que, du coup, dès qu'il dessine une gonzesse, on a en tête, tout ce qu'il a pu faire avant.
Moi, j'ai en mémoire un bouquin de Manara. Alors là, le titre, c'est introuvable. C'était un bouquin sur des auteurs de tableaux célèbres. Et c'est Manara qui a fait toutes les illustrations. Bon, ce bouquin, je l'ai feuilleté une fois à la Fnac, et j'ai pas noté le titre et j'ai jamais retrouvé. Mais les illustrations de Manara pour ce bouquin-là étaient exceptionnelles. Et voilà, c'est clair que c'est un illustrateur, quoi. C'est vraiment un super dessinateur. Mais je pense qu'il faut lui donner le sujet, faut lui donner un cadre.
Bah moi, j'avais adoré ce qu'il avait fait sur Sandman. Il a dessiné une histoire de Sandman avec Neil Gaiman au scénariste. Alors là, pour le coup, il a un super bon scénariste. Et c'était une histoire autour du personnage de Désir, ce qui pour le coup était super approprié et très très bien mené. Donc voilà. Donc Manara, ouais, il faut lui donner un cadre, quoi.
Non mais c'est ça, hein, parce que ses dessins sont absolument magnifiques, mais faut pas le laisser tout seul, quoi. Sinon, ça fait des trucs bizarres.
D'accord. Et tu nous as parlé de ta lecture honteuse. Apparemment, tu es un lecteur des blondes.
Ouais. Disons que, oui, enfin, forcément, je pense que c'est le genre de BD qu'on a tous un peu au moins feuilleté, au moins regardé comme ça. Et je sais pas si je dois en avoir honte ou trouver ça rigolo. Enfin, je m'interroge encore sur ce phénomène-là. C'est quand même... parce que, mine de rien, on est à 13 femmes, hein, c'est ça, 13 femmes de blondes.
Il y a un paquet, je sais.
Bah, c'est toi le spécialiste, hein, parce que...
De tête, je dirais 13. Et ça veut dire que ça continue de marcher, quoi. Enfin, avec des tomes en ch'ti, avec des tomes... Enfin, c'est un phénomène qui m'interpelle beaucoup. Je le comprends pas trop, et du coup, enfin, voilà, j'ai essayé de comprendre en lisant quelques-uns, mais je continue de pas vraiment comprendre.
Est-ce que tu crois pas que c'est de la BD qui fonctionne? Parce que, c'est facile, c'est simple, hein, je veux dire, pas prise de tête. Le truc qu'on peut mettre dans un supermarché en tête de gondole, et que, quand c'est pas quoi offrir à quelqu'un, on se dit qu'on prend pas trop de risques en offrant les blondes, que ça le fera au moins sourire peut-être sur une ou deux histoires.
Je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Et puis le côté marrant, genre j'ai une copine blonde, alors je vais lui offrir les blondes, vraiment c'est une bonne blague.
Comme toutes les BD thématiques, les profs, les flics, les gendarmes, les rugbymen,
les geeks.
Aussi, ouais. Ouais, mais les geeks, elle est excellente.
Oui, mais parce qu'on se reconnaît dedans.
Ouais, c'est ça, je sais pas si ça parle à tout le monde.
Tu te reconnais dans les blondes?
Moi, complètement, ouais.
D'accord.
Non, non, par contre, Oui, voilà, j'avoue, j'ai lu des tomes des blondes. Et voilà. Et, mais c'est, ça fait partie des BD, par exemple, les plus regardées sur BDO. Enfin, voilà, on a fait un top 10 récemment des BD les plus vues. Et il y avait beaucoup de Manara. Hein, donc, bon, voilà, forcément. Et les blondes. Voilà.
Mais d'un autre côté, les blondes, je trouve que le dessin est bon.
Ouais, il y a un très très beau dessin.
Mais il est
efficace. Le mec, il est efficace, c'est bien dessiné. J'aimerais bien voir ce dessinateur sur quelque chose d'un peu plus ambitieux, quoi. Alors après, il se fait peut-être plaisir parce que c'est facile et que ça rapporte de l'argent, donc il aurait tort de se priver de quelque chose qui lui permet de vivre peut-être plus tranquillement sans trop se prendre la tête. Mais j'aimerais bien voir ce qu'il peut donner sur autre chose. Je connais plus le nom du dessinateur.
Voilà, oui.
Voilà, c'est nous les blondes là pour le coup.
Mais t'imagines que le mec il a fait 13 tomes et en fait personne ne regarde jamais ce qu'il a dessiné.
Ouais, tout le monde connaît sa BD, mais.
Ouais. Non, puis tout le monde connaît le trait, enfin, parce que ça a été repris, pas que dans la BD.
Je vais tenter un truc, j'ai une réminiscence, je crois que c'est Vooch. Mais c'est peut-être pas ça. On verra si j'ai raison.
D'accord.
Faudra qu'on vérifie tout à l'heure, okay. Mais je crois que c'est ça. Attention, c'est un test à faire.
Vérifiera, voilà.
Et on continue dans le rattrapage, mais alors là, du vieux truc, même s'il y a eu des choses un peu récentes. Les Chevaliers du Zodiaque. Tu nous as dit que tu étais un fan de Kurumada. De Kurumada en tant que scénariste. C'est-à-dire que tu rêverais d'interviewer Kurumada en tant que scénariste.
Bah, en fait, ça vient, à mon avis, vraiment de cette passion que j'ai depuis tout petit pour les Chevaliers du Zodiaque. Moi, c'est un truc qui a vraiment, je pense, marqué ma vie. Après les Chevaliers du Zodiaque, j'ai nourri une passion pour tout ce qui était mythologie grecque. J'ai été jusqu'à faire du grec ancien à cause des Chevaliers du Zodiaque.
Ah ouais, quand même.
Ça a marqué les. Hein. Ouais. Donc en fait, et je trouve que ce qu'il a fait, reprendre la mythologie, jouer avec comme ça, cette histoire de chevalier, vraiment moi ça m'a. Peut-être que j'étais gamin, mais peut-être pas, parce que même encore maintenant, j'adore ça et j'ai vu qu'il y avait une série là, qui allait être relancée très bientôt, donc un nouvel animé en reprenant toute la trame des chevaliers qui va sortir bientôt. Et je sais que je serai le premier à regarder, quoi.
D'accord. Alors, réponse en direct, non, ça n'a rien à voir au niveau du dessinateur. Alors, s'il y a un dessinateur qui s'appelle Vooch, je pense qu'il va m'en vouloir. Mais le dessinateur s'appelle
Zach. Et le scénariste, c'est Gabi.
Voilà.
D'accord. Mais pas de tous les tomes, si.
Peut-être qu'ils sont pleins en fait.
Alors attends, c'est une collègue. Ah ouais, c'est collègue.
Tiens, les recherches en direct sur téléphone portable, c'est pas évident.
Mais je sais ce que je peux.
Hein. J'aurais dû sortir mon netbook pour fouiller en parallèle, ça aurait été plus facile. Bon, attends, on continue sur le Chevalier du Zodiac. C'est quand même vachement plus intéressant que les blondes là. Hein. et le Chevalier du Zodiac, tu as découvert par le dessin animé ou par la BD?
Ouais, bah bien sûr, je pense comme tous les gamins, voilà, moi j'étais un gros fan du Club Dorothée. Plus que de raison, hein. Même encore maintenant, j'ai des trucs, ça je garderai peut-être ça pour un prochain, mais après c'est abus, mais j'ai des trucs autour de Dorothée qui sont vraiment, enfin voilà, je voudrais pas que je les montre normalement, c'est un peu, mais donc je suis un grand fan j'étais un grand fan, donc je ratais pas un épisode des Chevaliers du Zodiac, et évidemment ça donne envie après de se lancer dans le manga, mais à partir du moment où ils sont arrivés, hein, c'est-à-dire que c'est quand même grâce au Club Dorothée qu'on a eu comme ça tout plein de mangas qu'on peut arriver à avoir une vraie vie en France dans le domaine de l'édition, et ça c'est quand même super chouette, quoi. Donc après je me suis un peu plus intéressé à tout ça et j'ai trouvé ça encore aussi génial au monde, quoi.
Alors ce qui est marrant, c'est que tu nous as cité Kurumada en tant que scénariste, pas en tant que dessinateur, parce que c'est lui qui dessine, hein, les Chevaliers du Zodiac.
Ouais,
voilà. Je sais que le dessin de la bande dessinée ne plaisait pas forcément aux gens, parce que le caractère design du dessin animé était quand même un peu plus chiadé. Par contre, en tant que scénariste, tu trouves pas qu'il a tendance à un petit peu se répéter d'un épisode à l'autre, hein. Enfin, d'une saga à l'autre.
D'une saga à l'autre,
ouais. Ouais, peut-être d'une saga à l'autre, ouais. Mais c'est vrai que moi, j'étais à fond là-dessus. Je sais pas, enfin c'est peut-être que quand vous m'avez envoyé le truc, j'étais en train de découvrir la série abrégée des Chevaliers du Zodiac. Je sais pas si vous connaissez.
Oui, qui résume très très bien. C'est un mec qui s'amusait à faire les Chevaliers du Zodiac en résumé, donc avec les dialogues tout refaits qui dit que des conneries.
D'accord. C'est ça, exactement. Et du coup, j'étais à fond dans un trip revival Chevaliers du Zodiac, et quand vous avez posé la question, voilà, j'ai eu ça qui a popé dans mon esprit. Mais non, je trouve pas. Après, oui, peut-être, je connais pas trop ce qu'il a fait à part ça, je vais être honnête. Mais, voilà, mais je sais que moi, si tu veux, ça a vraiment été un truc qui m'a pris et qui me prend encore. Enfin, les Chevaliers du Zodiac, j'ai aussi des trucs, voilà, c'est vraiment un truc fondateur pour moi, donc je me dis que j'adorerais lui parler.
Parce que moi, je sais que j'en garde un bon souvenir, j'ai suivi un moment, je crois que, bah, ce que je n'ai pas vu, c'est à partir d'Hadès, en gros.
Ouais, enfin, ce qui veut dire quand même que t'as déjà fait quand même trois sagas, c'est-à-dire que tu as fait. Ouais,
mais le problème, c'est que les sagas, c'est voilà. Alors, non, parce que tout ce qui est au début, la quête de l'armure du Capricorne,
du Sagittaire,
ah, oh, ça va, il y a longtemps. Du Sagittaire, c'était original. Il y avait quelque chose. Ouais. Ensuite, on arrive sur la maison sur les différentes maisons des Chevaliers d'Or. Et là, on a un schéma qui se met en place et qui sera le même pour toutes les sagas d'après. C'est-à-dire, la princesse Saori se prend un truc dans la tête et elle a peu de temps, sinon elle va y passer
c'est
le
Athéna,
monde avec.
C'est Athéna, on va dire. Oui, Athéna, voilà. Il arrive un truc.
Ensuite, il commence à grimper des marches en courant et en parlant, parce qu'ils sont super forts, ils parlent sans s'essouffler, c'est le chevalier du Zodiac. Seyar latte la tête du premier en général, puis au deuxième, à chaque fois, c'est ses potes qui se mettent devant. Il bouffe des colonnes, parce que dans les chevaliers du Zodiac, on bouffe des colonnes.
Il y a toujours de la colonne, oui.
Voilà. Bien sûr, Shen se fait défoncer la tête et là son frère débarque dans ses ou pour le sauver.
Le seul qui a une vie sociale, hein, on le notera.
Voilà. Le chevalier du cygne, lui, il retrouve un ancien maître qui lui en veut toujours et qui a été corrompu. Enfin, le dragon repère la vue ou la retrouve à chaque saga. Il lui arrive un truc là-dessus. Ils arrivent en haut. Seyar qui a quand même tapé que le premier mec se retrouve contre le gros boss et se fait démonter la tête. Et là, tous les autres, ils font, on se tient tous par la main, on se fait le pouvoir des bisounours, et comme ça, tu seras assez fort.
C'est comme dans Charme, c'est le pouvoir des trois qui va les sauver.
C'est le pouvoir des trois qui les sauvera. Bref, mais c'est
ça,
vrai que moi.
Mais ça, après, c'est toujours du. Enfin, je dirais, dans beaucoup de mangas, hein, c'est le genre de choses qu'on retrouve. Hein, si tu prends Sailor Moon ou ce genre de truc, c'est un peu la même chose en fait. Hein. Mais moi, ça marche avec moi, ce genre de truc. Enfin, je suis peut-être bon public, hein, mais ce genre de truc, moi, ça marche vraiment avec moi. Ouais. Tout le truc autour de la mythologie grecque, voilà, moi,
il s'est renouvelé sur Hadès et sur les sagas d'après.
Ouais, quand même. Enfin, et puis la fin de. Enfin, on va pas spoiler, mais la fin justement d'Hadès, c'était quand même assez violent. Quoi, donc,
Puis il me semble que la mythologie. Il me semble aussi que la mythologie qui est construite en parallèle de la série est beaucoup plus intéressante que ce qu'on a pu en voir
dans l'anime.
Ah, mais non, mais c'est ça. Oui, non, mais enfin. C'est-à-dire que l'animé, forcément, il passait 20 000 ans à monter des marches et tout ça. Mais en fait, ça vient du processus de création. C'est-à-dire que c'est exactement comme Dragon Ball Z. Les mangas marchaient tellement bien qu'ils ont dit, on va faire vite un animé. Alors, ils font vite un animé. Et comme ils le font très très vite, ça a rattrapé le manga. Et au bout d'un moment, le manga sortait moins vite que l'animé. Donc, il fallait bien boucher les trous, en fait. Et ça donne toute la saga des Chevaliers d'Acier, ça donne le côté, tiens, on va mettre 4 épisodes pour monter un escalier, parce que juste, en fait, ils attendaient que le manga sorte pour pouvoir faire la vraie suite.
Moi, j'aimais bien les Chevaliers d'Acier. Je vais être le seul, bon, je crois.
Moi aussi, j'aimais bien les Chevaliers d'Acier, mais bon, bref.
C'est ceux qui avaient les armures
technologiques. C'était les Iron Man des Chevaliers de Zodiac.
Et quelle saga tu préfères, alors?
Moi,
la première, Asgard... avec Poséidon.
Moi, le sanctuaire, ça m'a bien bloqué, quoi. Alors, je sais que tout le monde va te dire, ouais, il montait juste des escaliers, mais non, c'était pas tout ça.
Non, il mangeait des colonnes aussi.
Ouais, mais attends, il y avait quand même les chevaliers d'or, quoi.
Ouais, non, il y avait des chevaliers d'or, c'était la classe. Puis c'était aussi, bon, on était jeunes aussi, donc on a un souvenir ému, forcément. Mais il n'y avait pas encore le côté répétitif qu'on a eu après, même si Asgard,
c'est vachement bien.
C'était les caractères design qui avaient la classe sur Asgard.
Non,
surtout.
Mais c'est ça, c'est que Asgard, Roland et Hadès, c'est pareil. Alors, oui, il y a des trucs qui se répètent un peu, mais pas tant que ça. Si ça marche, voilà, moi ça, c'est le genre de truc, ça marche avec moi, mais voilà, je dois être bon public.
D'accord. Et ben, on va passer à notre intégrale.
Et là, c'est du lourd.
Ah, c'est du lourd. On attaque du grand classique, du grand ancien limite. On va attaquer Lucky Luke.
Un ancien fumeur.
Ouais, c'est bien. Lucky Luke, donc une série mythique de Maurice à la base, aidé par Goscinny un peu après, parce que les premiers tomes ils les avaient fait tout seuls, et qui maintenant est une série de HD et divers scénaristes variés, si je ne m'abuse.
Ouais. Plus ou moins. C'est-à-dire que c'est Laurent Gérard qui a les droits en fait sur Lucky Luke et qui a racheté la.
Ah, il a carrément racheté les droits sur Lucky Luke.
Ouais, c'est Laurent Gérard qui a tous les droits sur Lucky Luke en fait, ce qui explique pourquoi les deux premiers tomes qui sont sortis après la mort de Maurice sont avec Laurent Gérard au scénario et donc HD au dessin. Et Laurent Gérard s'est dit qu'il allait aussi un peu laisser d'autres scénaristes jouer avec Lucky Luke entre guillemets. Ce qui donne le duo Pennac et Benacquista sur le dernier Lucky Luke contre Pinkerton, en fait. Voilà, pour faire ça.
On n'attendait pas forcément d'avoir ces deux auteurs-là sur du Lucky Luke, quoi.
Ouais. Et ça, c'est vraiment assez bizarre de se dire ça, mais qu'est-ce que ça marche bien. Enfin, moi, le dernier Lucky Luke, j'ai vraiment bien accouché, quoi.
Alors, on est dans l'intégrale, donc on va essayer de revenir un petit peu sur l'histoire.
Ouais.
Enfin, sur les étapes, parce que j'ai pas les dates en tête. Étapes, j'ai pas fait une recherche super détaillée là-dessus. Donc, je crois que c'est dans les années 70, hein, les premiers Lucky Luke de Maurice. Au départ, Lucky Luke, bah, le personnage évolue juste par Maurice. En gros, on va avoir plusieurs périodes. On va avoir la période Maurice seul, la période avec Goscinny.
D'accord.
Puis, il me semble qu'ensuite, quand Goscinny décède, Maurice continue, je ne sais plus.
Oui, c'est ça.
C'est ça, Maurice continue tout seul. Et ensuite, bah, quand Maurice... Est-ce qu'il y a, au niveau de ces périodes-là, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire rapidement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué sur la période Maurice seul, sur la période avec Goscinny?
Alors, en fait, ce qu'il faut bien voir avec Lucky Luke, c'est que quand il commence, il est plutôt violent, en fait. C'est-à-dire que c'est pas forcément le Lucky Luke qu'on connaît maintenant. Dans les premiers albums, il n'hésite pas à tirer sur les bandits, à les refroidir bien comme il faut. Enfin, ça vient qu'après, hein, le fait qu'il tire dans les pistolets et tout ça, au début, il les descend et il cherche pas. Et ensuite, donc il y a Goscinny qui arrive, et donc là, ça devient vraiment beaucoup plus marrant, beaucoup plus drôle, et enfin Goscinny met sa patte, quoi, tout simplement. Et donc il y a le passage d'éditeur, en fait, parce que ça passe de Dupuis à Dargo, et donc avec Tortillas pour les Dalton, c'est un peu le dernier qu'ils vont faire chez Dupuis. Et là, en fait, c'est vrai qu'on a ce moment où Goscinny et justement Maurice vont pouvoir se lâcher. Enfin, je pense à les Tortillas pour les Dalton, c'est complètement barré, c'est complètement, enfin, voilà, c'est juste génial. Et ensuite, donc, on va avoir, Maurice qui va continuer seul après le décès, mais là, on reste un peu dans la même chose, enfin, que ce qu'il avait fait avec Goscinny, parce que vraiment, le personnage est vraiment bien carré, bien dans les clous. Et ensuite, donc, on a Laurent Gérard qui va reprendre le personnage et en faire, enfin là, on sait pas trop, parce que c'est vrai qu'il a fait que des albums. On a ensuite l'album avec Pennac et Benacquista qui revient vachement à ce que faisait Goscinny. Donc, Wait and See pour la suite. Mais c'est vrai que c'est une série qui a marqué un peu, moi, toute mon enfance, en tout cas, je pense que j'ai à peu près tout.
Ok. La reprise par Laurent Gérard avait beaucoup fait parler quand même, parce que Laurent Gérard étant populaire, forcément il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Et le fait qu'il reprenne Lucky Luke a beaucoup choqué des personnes qui n'ont pas forcément lu ce qu'il a fait. D'ailleurs, moi j'ai pas lu les Lucky Luke de Gérard. Tu savais qu'il les avait fait de découvrir.
Non, là franchement, j'avoue que moi j'ai fait. Enfin, Lucky Luke, c'est vraiment une lecture d'enfance. J'ai plein de souvenirs dessus, mais dernièrement, je crois que j'ai feuilleté le dernier chez mon beau-frère. Je crois que j'ai feuilleté, après voilà. Donc c'était Laurent Gérard qui avait fait des scénarios. Tu vois, ça m'avait même pas effleuré l'oreille.
Mm-hmm. Est-ce que toi, tu as trouvé des faiblesses ou des qualités auxquelles tu t'attendais pas forcément de la part de Laurent Gérard, qui n'est pas scénariste de BD à la base? Je crois que c'était sa première BD scénarisée. Forcément a pas la légitimité que pourrait avoir n'importe quel autre scénariste qui a déjà fait de la BD.
Alors moi, je vais pas dire du mal de Laurent Gérard, parce que enfin déjà il a repris tous les droits, etc. Et on n'était pas sûr que Luc aurait pu continuer sans lui. Il a fait un gros boulot avec HD, parce qu'il était pas scénariste de BD, mais justement il est arrivé avec cette humilité là et du coup il a beaucoup travaillé. Il y a une grosse collaboration en fait entre HD et Laurent Gérard, c'est-à-dire que HD donne un peu cette légitimité parce que lui avait déjà travaillé, non pas sur la série Lucky Luke, enfin il avait fait des choses pour Lucky Luke, mais il avait surtout travaillé sur Rencontrant en fait, je sais plus comment on appelle ça, mais bref, il avait beaucoup bossé là-dessus. Donc Donc ça s'est plutôt bien passé. Après, c'est sûr que c'est plus de l'humour Goscinny, c'est de l'humour Laurent Gérard, donc ça change un peu, c'est pas vraiment le même style. Et pour les gros fans de Lucky Luke, c'est vrai que ça peut un peu choquer. Moi, ça m'a pas choqué plus que ça, et je trouve ça vraiment bien que la série continue, quoi, parce que là, enfin, on n'attendait pas Maurice là-dessus, c'est-à-dire que Maurice avait une réputation. Et quand il a insisté pour que le personnage lui survive, y a plein de gens qui n'auraient pas dit qu'il aurait fait ça, quoi. Il aurait fait plutôt comme. Les gens pensaient qu'il serait plutôt comme Hergé en disant le personnage c'était moi, une fois que je suis mort, c'est terminé. Quoi. Et il a dit non, qu'il voulait que le personnage lui survive, quoi.
D'accord. Et maintenant, l'arrivée de Pennac et Benakista. Alors, Pennac et Benakista. Alors Benakista avait été adapté en BD déjà, mais je crois pas qu'il était scénariste dessus. Pennac a lui avait déjà scénarisé de la BD. Il avait fait La Débauche, il me semble, avec Tardy. Ouais, t'as vu un peu ses références. Je te sors d'un coup. Ouais, mais c'est parce que je l'ai en haut en fait. voilà. Et est-ce que là, t'as encore senti une différence, ou est-ce que ils ont réussi à retrouver le ton que pouvait avoir Enfin, c'est toujours difficile de reprendre la suite parce que les fans sont forcément déçus parce qu'ils se souviennent de ce qu'ils aimaient quand ils étaient enfants, et c'est forcément pas pareil. Est-ce que toi, ça t'a semblé une bonne reprise?
Alors moi, vraiment, le dernier, la lutte contre une personne, j'ai vraiment eu l'impression de voir un Lucky Luke scénarisé par Goscinny, quoi. Enfin, on était vraiment dans les mêmes types d'humour, dans les mêmes types de vannes, dans les mêmes références. Et c'est un Lucky Luke qui est très très réussi.
Ouais.
Enfin, moi, j'ai retrouvé que forcément sur des séries comme ça, où il y a, je sais plus, 70, 80 tomes, un truc comme ça, enfin, c'est énorme le nombre de Lucky Luke. On en a qui sont de très très haut niveau, et puis d'autres qui sont un peu moyen, enfin voilà, et là vraiment on est dans un équilibre que j'ai trouvé de haut niveau en fait sur le film Carson.
Ils jouent la carte de la nostalgie en remettant des vieux personnages, ou alors est-ce qu'ils s'affranchissent de ça et ils vont de l'avant avec le personnage?
Non, ils vont de l'avant avec le personnage, complètement. C'est une histoire qui est complètement originale. Ils font exactement ce que faisait Goscinny, enfin qu'il a beaucoup fait, en prenant des personnages ayant réellement historiquement existé et en le mettant à l'intérieur d'une histoire avec Lucky Luke. C'est le cas de Pinkerton. Hein. Pinkerton est un vrai détective, ouais, qui a vraiment inventé la CIA, machin, tout ça. Et voilà, c'est comment est-ce que ce mec-là va rencontrer Lucky Luke, avec des petites touches qui tabassent un peu sur la politique du moment, et qui font toujours un peu référence marrante et qui font plaisir.
D'accord. Bon, ça me donne envie de lire le dernier Lucky Luke.
Je le tape à mon beau-frère.
Donc. Voilà, ouais, tu le taperas, tu me ramèneras. Et dernière petite question sur les reprises, sur les BD qui continuent. Est-ce que beaucoup de personnes parlent de la continuation d'Astérix justement après Goscinny.
Ouais.
Ouais, j'ai senti un ouais qui va dans le sens là. Toi aussi, t'as du mal ou?
Il y a des gens, encore un problème de scénario, je pense, là. Vraiment un problème de scénariste, quoi.
Bah, moi, je sais que les premiers que Uderzo avait continué à la mort de Goscinny, je les trouvais pas mal. Le Grand Fossé, d'ailleurs, très bien. Il y en avait eu des très sympas. Mais je sais pas, à partir de La Rose et le Glaive, c'était peut-être même avant, ça avait commencé à partir un peu en vrille. Et alors, le dernier tome.
Le dernier était pas piqué d'un ton. Hein.
Il a fait très très mal.
Non, mais ça, on sent que ça. Mais c'est comme tout, hein, ça s'essouffle. Et il y a un moment où soit on donne la main à d'autres scénaristes qui peuvent redonner un souffle, quelque chose, ou on arrête, quoi. Et là, je pense qu'on en est un peu à ce stade-là avec Astérix. Vraiment, les derniers, c'est vraiment différent, quoi.
Vu les critiques qu'il a pris, déjà que les critiques n'étaient pas fantastiques sur les précédents, sur le dernier, les critiques étaient tellement mauvaises, assez unanimement, j'ai eu l'impression, que c'est vrai que ça doit faire un peu mal à l'ego quand on est auteur.
Bah, surtout en plus que il a plus le droit dessus.
Oui. Et oui. Ah oui, non, c'est vrai qu'il n'est pas créateur de.
Il n'est pas créateur d'Astérix, ça c'est hallucinant.
Tu avais entendu cette nouvelle
Oui, on en a même parlé sur BDO. Hein.
Ouais, ouais. Ça, c'est peut-être là que j'ai lu d'ailleurs.
Mais c'est assez hallucinant, ouais, que le fisc lui réclame. Ça fait une belle somme, hein, qu'il lui réclame du coup. Hein.
Ah bah j'imagine, oui, parce que Astérix, c'est quand même une bonne vente, hein, je pense, dans la BD européenne.
Non, léger, c'est pas traduit en plus, donc.
Non, pas du tout. Non, ça se vend pas partout en Europe. Il hein. Y a pas des parcs à son nom, tout ça. Hein. Non, non.
Y a pas, ça n'existe pas dans toutes les langues minoritaires de France.
C'est vrai en plus.
Ah oui. Comme les blondes, hein, en ch'ti et tout ça, ouais, c'est pareil.
Moi, je crois que j'ai lu Astérix en Corse, hein.
Je te crois là-dessus.
Donc, bah voilà, on a fini avec ces gros classiques et on va finir avec notre online. Alors, en online, tu nous as parlé de questionable content.
C'est ça, exactement.
Qu'est-ce que questionable content? Car je ne connais pas du tout.
Alors ça, c'est étonnant quand même, parce que questionable content, c'est quand même un webcomic qui est... Alors c'est un webcomic américain, mais qui est quand même un des plus gros. Et le premier, c'est sorti en BD, quoi, en vrai BD, mais nous, évidemment, on l'a pas en France. Donc c'est fait par Jeff Jacks. Et c'est l'histoire de... En gros, c'est un groupe de potes qui sont fans de musique indie et de blagues un petit peu olé-olé parfois. Et voilà, c'est un peu leur vie au quotidien, les histoires d'amour, les histoires... C'est un peu comme une sorte de sitcom, quoi. Voilà, c'est une sitcom que je suis. Et c'est tous les jours, il y a un strip tous les jours. Donc là,
tous les jours un strip.
Tous les jours, il y a un strip, donc si tu veux rattraper, là, il y en a 1800 ou 1900, un truc comme ça.
Je le faisais à une époque de rattraper les webcomics que je démarrais, mais j'ai du mal.
Ouais,
j'avais récupéré tout Order of the Styx. Il y avait déjà près de 400 planches, un truc comme ça, et maintenant je peux plus faire, j'ai plus le temps.
Mais j'ai fait pareil pour Order of the Styx, mais questionable content, j'ai commencé, je sais pas, il devait y avoir quand j'ai commencé. Je vais être au milieu, quoi, donc 900 strips, et j'ai tout fait en une nuit, quoi. J'ai pas dormi de la nuit tellement, enfin, j'ai été. Ouais.
À 900 strips, quelque part, c'est que 300 pages.
Ouais, c'est ça, près. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais en plus, c'est des longs, là, enfin, c'est quand même des grandes planches, enfin, bref. Et puis, comme c'était en anglais, et que c'était il y a quand même quelques temps, j'avais parfois un peu du mal, maintenant, ça va un peu mieux, mais voilà. Mais, et du coup, ouais, je me suis tout fait. Il y a vraiment ce petit personnage de Pinside, parce qu'il y a le côté, donc, comme si c'était chez nous, mais ils ont des robots qui peuvent parler et qui interagissent avec les gens. Et Pinside, c'est un petit robot qui est un obsédé sexuel, mais enfin, comme on peut pas imaginer, en fait. Et qui propose toujours des trucs vraiment bizarres, et enfin, voilà, ça donne un côté comique. J'adore ce personnage, c'est vraiment génial, quoi. On a Anne-Laure qui est une fille qui peut rien faire tellement elle a des problèmes psychologiques, voilà, le moindre truc la fait paniquer, voilà, dès qu'on lui parle de sexe, elle panique, dès qu'on lui parle de trucs un peu bizarres, elle panique, enfin voilà, ça donne des situations vraiment juste géniales, quoi. Mais comme il y a des histoires d'amour et tout, quoi, il y a des fois c'est aussi un peu mignon, donc ça marche bien avec moi.
Et les personnages évoluent dans le temps ?
Ah non, mais l'évolution depuis, enfin, alors ne serait-ce que graphiquement.
Oui, ça, c'est sûr.
C'est juste énorme. Et évidemment, il y a une évolution dans l'histoire des personnages qui est aussi énorme, quoi. Enfin, parce que ça fait, je sais pas combien de temps ça fait, mais ça doit, parce que tu comptes à 1900 strips à raison de un par jour du lundi au vendredi, ça fait quand même plusieurs années, quoi. Je pense que ça a commencé en 2003.
Ouais.
Non, ça doit être plus que ça, parce que ça a dû commencer en 2003 en fait. Un truc comme ça, 2003-2004, je crois. Donc peut-être qu'au début, il n'avait pas une production tous les jours, c'est possible. Mais bon, du coup, non, les personnages ont évolué vraiment au fur et à mesure, quoi. Donc c'est vraiment un webcomic que je vous conseille, parce que c'est super chouette. Ouais.
Ok. Tu nous as parlé de deux autres webcomics.
Ouais.
En fait, tu nous en as parlé en parlant des éditions papier. Tu as parlé de Sans Emploi et de la bande pas dessinée.
C'est ça, ouais.
Que tu suis. Qu'est-ce que tu penses du fait que ces webcomics sortent en papier ? Est-ce que toi, tu es client pour quelque chose que tu as déjà lu sur Internet ? Ou est-ce que, bah, non, en fait, parce que tu l'as déjà lu ?
Alors moi, je suis client parce que ce qu'ils font, c'est juste, enfin, que ce soit Navo ou JB, c'est vraiment génial. Et pour autre chose, quoi. C'est-à-dire que on a le choix entre deux modèles commerciaux, à mon avis. C'est-à-dire que soit on fait comme beaucoup de blogs BD aux États-Unis, où tout est payant. C'est-à-dire que si tu veux regarder ta planche, tu payes. Et du coup, les auteurs arrivent à se financer comme ça. Soit tu fais, donc soit t'as des blogs qui sont gratuits, mais derrière, si tu veux que quelque chose, que les auteurs puissent continuer à vivre, faut bien payer quelque part, quoi. Donc moi, quand j'aime, je paye. Et du coup, je suis complètement client. Mais je pense qu'on n'achète pas dans le même but. Et en plus, c'est assez intelligent. Il y a des choses qu'on n'a pas lues sur le blog qui se retrouvent dans les BD, quoi.
Oui.
Aussi, à chaque fois, enfin, il y a aussi quand même un plaisir de découverte. Parce que si vous lisez la BD sans emploi après avoir vu le blog, c'est même pas du tout la même trame narrative, en fait. Enfin, il y a des choses qui évoluent, il y a des trucs nouveaux, en fait.
Tu as dit que tu offrais beaucoup sans emploi.
Ouais.
T'as beaucoup d'amis sans emploi, c'est ça? C'est comme les blondes à offrir à une blonde.
Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, donc à l'époque où mes potes étaient encore beaucoup étudiants, moi, j'ai fait un an et demi de chômage avant de trouver mon nouveau travail. Et du coup, j'étais un peu le chômeur de la bande. Enfin, voilà. Et du coup, c'était genre, j'étais peut-être pas aussi loser que Constantin, mais il y avait ce petit côté genre, ouais, mais toi, tu te lèves pas, t'es au chômage, machin. Donc, il s'en amusait beaucoup. Et puis moi, ça me faisait aussi vachement marrer parce que, voilà. Et du coup, maintenant que je bosse dans la BD et voilà, et puis sans emploi, je vis ça, ouais, depuis la saison, peut-être pas la première, mais je pense depuis la saison 2 ou 3, enfin, donc ça commence à faire. Et du coup, maintenant que c'est sorti en BD, ouais, je l'ai beaucoup offert en disant, parce que maintenant, du coup, c'est eux qui ont fini les études et qui sont au chômage, le temps de trouver un travail. Alors du coup, c'est un peu...
Vengeance!
C'est un peu la vengeance, mais gentillesse, parce qu'en plus, c'est une super BD, quoi. C'est pas comme si je leur offrais un truc qui est pénage, parce que sans emploi, c'est juste drôle du début à la fin, quoi. C'est génial.
Eh bien, maintenant nous arrivons à l'heure terrible, au moment que tout le monde attend, les questions à la con.
D'accord, mon Dieu, je tremble.
Tu peux, je vais juste aller les chercher parce que...
parce qu'il avait, parce qu'il les avait pas préparés, voilà, il a même pas mis dans le planning, il fait n'importe quoi.
Te moque pas.
Bon, la question quand même, c'est triple C, ça veut dire quoi?
Même moi, je sais pas.
Bon, parce que nous, enfin, moi, j'ai eu le triple C, les trois C, c'est café, club, caca, quoi. C'est...
Non, c'est pas ça.
C'est pas ça. Alors après, on se dit peut-être que c'est les initiales des prénoms.
Non, je m'appelle Sylvain. Non. Non, mais je sais pas très bien, faudrait demander à mon patron.
Eh ben, on va pouvoir démarrer nos questions à la con. Alors, il y en a peut-être à virer, je sais pas.
Oh, ouais, on balance tout.
On balance tout, on verra, parce qu'il y en a qui vont peut-être rien te dire du tout.
Bon, on verra bien.
Je pense pas.
Ouais, on verra. Ouais, tu penses pas?
Non,
ouais,
je pense pas. Je pense que ça va tourner, ça.
Allez, c'est parti.
Alors, oui, mais enfin, peut-être qu'on me donne le principe, quand
même. Le principe, on va te poser. On va te dire deux mots. Faut que tu en choisisses un. Si tu veux te justifier, tu as le droit, mais t'es pas obligé.
D'accord.
Et puis après, on fera des statistiques pour comparer ceux qui ressortent le plus avec tous les gens qu'on invite.
D'accord.
Hergé ou Franquin?
Franquin.
Soleil ou l'association?
Ah, ça c'est dur, ça. Ouais, Soleil. Lanceuse, ça a toujours marché avec moi.
Bédégeste ou Bédovor?
Je connais pas Bédovor.
Ah, Bédovor, c'est un site sur lequel on peut gratuitement faire sa collection de bandes dessinées, qui est très très sympa, qui est très très sympa parce qu'il est gratuit, mais qui a une ergonomie assez difficile. Il serait temps qu'il la change.
Qui est un peu ancien.
Voilà, mais c'est assez sympathique comme principe.
C'est vrai que moi, enfin, j'ai beau avoir des BD, j'arrive pas. Ça doit être le côté, je range pas. Enfin, c'est pas grave, tu vois. Voilà.
Bah on est adepte. Ouais, Mathieu et moi, bah, Mathieu lui utilise Bedovor, moi j'utilise BDGest. BDGest qui en fait a une formule d'abonnement pour accéder à leur base de données. Donc moi je l'utilise bien parce que j'ai vraiment beaucoup d'infos. Bedovor a l'air aussi plutôt pas mal foutu et obtenir d'autres choses. Disons que moi j'aimerais bien un bon mélange des deux. Il y a BD Maniac qui est en train d'essayer de se développer, qui a l'air d'être un mélange des deux qui est en train de se mettre en place, mais qui manque encore au niveau du fond de la base de données de pas mal de choses. Moi, c'était surtout que là, ils ont fait un accord, ils vont avoir les trucs de Panini, mais tout ce qui était comics, ils avaient quasiment rien et dans leur base de données. Et puis surtout sur les vieux trucs, bah, comme ils sont tout nouveaux, ça leur manque un peu.
Ouais, faut les chercher, quoi.
Voilà.
C'est quand même bien pratique quand tu veux savoir qu'est-ce qui va sortir. Enfin, sur les séries que tu suis, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui va sortir. Des fois, ça t'évite aussi de passer des heures de recherche à savoir dans ta longue série de bandes dessinées que tu suis,
qu'est-ce qui. Ça, c'est plutôt... ouais, c'est peut-être aussi que je bosse dedans, mais moi, c'est un peu un plaisir, hein, ce genre de choses, d'aller fouiner comme ça, d'aller... je sais pas, j'aime bien ça.
D'accord. Nous arrivons sur les nouvelles questions. Vas-y, c'est à ton tour.
Pourquoi tu sautes toujours celle-là ?
Celle-là ? Je la saute pas.
Si, si, parce que t'allais prendre celle du bas.
Ah non, non, c'est à toi de poser la question. Vas-y, pose-la. Je pose la suivante.
Jonah Jameson ou Jenna Jameson ?
Oh, Jenna Jameson.
Ah,
tu vois, il a du courage.
Ah, lui, tu assumes, tu as bien raison. Batman
bien
ou Superman ?
Batman.
À moteur ou à plume ?
À plume.
Noir et blanc pas cher ou couleur de luxe ?
Ah, c'est. Alors, je crois qu'il faut un peu des deux. On peut pas dire un peu des deux ? Non, on n'a pas le droit, il faut choisir.
Faut choisir là. Faut...
Alors, couleur de luxe, alors, allez.
Slip ou caleçon ?
Caleçon.
Blonde ou brune ?
Blonde, blonde.
Ouais, on reste toujours sur la thématique des blondes. Hein, ah, ça...
ouais. Xbox
ou...
Xbox ou Wii ?
Bah oui. Ah non, mais alors moi je suis un Nintendo fan de la première heure, quoi. Enfin, tu ne feras jamais sortir ailleurs que chez Nintendo. Enfin, c'est... Voilà, c'est pas possible. Zelda, tu vois.
Ouais, Zelda, ouais, on peut pas le rater. Thé ou café ?
Café. Caféinomane grave.
Numérique ou traditionnel ?
Ah, moi, je suis quand même un enfant du numérique. J'aime bien. Enfin, je lis beaucoup de blogs BD. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut aller vers ça.
One shot ou saga ?
J'aime bien les one shots. Au moins, c'est rapidement. Enfin, voilà, c'est rapidement fait. Et puis c'est une histoire. T'es sûr d'avoir la fin parce que des trucs où il faut 4 ans et t'es arrêté au milieu tous les deux matins. Au bout d'un moment, ça a tendance à m'énerver.
Donald ou Howard the Duck ?
Ouais, Donald. Le mec, il est interdit au Danemark parce qu'il a pas de pantalon. Enfin, il y a quand même un.
Toriyama ou Otomo ?
Toriyama. Dragon Ball Z, c'est vraiment. Ouais, c'est. Ouais.
Protoss ou Zerg ?
Alors, moi, je joue beaucoup Zerg parce que vraiment, c'est une race d'enfoirés et j'aime bien ça.
Ouais, ça, je comprends.
Un rush Zerg. Un rush Zerg en tout début de partie, il y a rien de, voilà, y a rien de plus jouissif que ça.
C'est ça, oui. En fait, donc tu fais partie des PNJ, je suis le personnage, je suis le joueur que je déteste. C'est pour ça que j'ai arrêté le multi sur le thème. Parce que de toute façon, ils jouent tous Zerg, ils te font tous un rush massif au bout de 5 minutes, et toi tu fais, c'est bon.
Mais c'est facile, hein. Enfin voilà, tu mets 2-3 bunkers, il n'y a plus personne en face. Hein. Enfin voilà. Et le bunker rush humain sur StarCraft 2 est bien pire que le rush Zerg. Hein.
Bière ou pastis ?
Ah, je suis très très bière, moi. J'ai une collection, enfin voilà, j'adore ça.
Blur ou Oasis ?
Ah, Oasis. Oasis.
Atari ou Amiga ?
Ah, Atari. J'ai commencé ma carrière de gamer sur Atari 2600, je devais avoir 3-4 ans, comme ça, chez mon oncle. Ouais, j'ai commencé jeune, ouais.
Ah ouais ?
Et,
voilà. Et non mais ouais, c'était chez mon oncle, il en avait une et du coup très vite ouais, j'ai pris le joystick en main et c'était parti. Et à 5 ou 6 ans j'ai eu ma première NES, enfin voilà, ouais, c'était vraiment j'ai commencé très très tôt les jeux vidéo. Et pour moi l'Atari 2600 justement c'est tous ces souvenirs là.
Alors ADD,
la question geek là, la vraie, on va voir.
ADD ou Vampire ?
Alors j'ai joué beaucoup à ADD, j'y ai joué mais des heures carrées, enfin vraiment quand j'étais à la fac, en fait, j'avais ma première année, j'ai arrêté la fac pour jouer à Donjons et Dragons.
Il y en a qui m'ont arrêté pour jouer à Magic aussi, hein, donc ça se respecte.
Ah, c'était plutôt au lycée, ça. C'était plutôt au lycée, mais voilà. Mais c'est vrai que Vampire, le système RP est quand même vachement.
Attends deux secondes.
De quoi?
Il fait n'importe quoi. Donc vas-y, excuse-nous, tu disais donc ADD.
Ouais, donc ADD, j'y ai beaucoup joué, mais enfin, je pense qu'au bout d'un moment, le système porte-monstre trésor s'arrête un peu. Et sinon, je joue aussi beaucoup à INF. C'est vraiment... Voilà. INF, enfin, plutôt Magna Veritas, mais j'ai une campagne en cours, d'ailleurs. Voilà.
Là, on a perdu la plupart de nos auditeurs. Alors, donc, tu ne le sais pas encore, mais on a lancé un concours avec Isneo. Et une des questions du concours, donc, pour faire gagner des Exlibris, c'est de trouver qui sont tous les personnages présents sur notre bandeau sur notre site.
D'accord.
Et donc, on a décidé que tu allais aider et donner un indice. D'après toi, d'accord, quel est le personnage le plus difficile à deviner sur notre bandeau? Est-ce que tu l'as sous les yeux ou pas?
On va aller chercher. Alors, désolé, hein, du coup, je suis forcé d'aller naviguer.
Ouais, un clic.
Ouais.
Trop bien.
Évidemment, c'est le moment où je choisis mon PC pour ramer, sinon ça serait pas drôle.
Bah oui, intérêt. C'est toujours comme ça.
Oh putain. Désolé. Je peux en donner plusieurs ou non? Alors, juste le plus difficile, c'est ça, un seul.
Enfin, je pense savoir lequel tu vas donner, mais et ça sera. Tu en diras peut-être un autre après. Vas-y, dis-nous le plus dur selon toi.
Non, mais en fait, il y en a pas tant que ça qui sont durs en fait. Ou alors ils sont trop durs et je les connais pas. Alors du coup.
Ah.
Bon, allez, je dirais tiens, je vais te donner Détective Conan. Voilà.
C'est Détective Conan? Oui, il y a Détective Conan, effectivement. Donc, voilà, c'était
notre... Pour moi, c'est lui le plus dur, je pense.
D'accord. Bah, c'était notre indice pour le concours. On rappelle qu'on a dit que c'était jusqu'au 15 avril, j'espère que je ne dis pas une bêtise, pour répondre. Bah, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à toi. Non,
merci à vous, c'était super cool.
Voilà, on espère que ça apprendra plein de choses aux gens, que ça leur donnera envie de lire les BD que tu aimes. On peut te retrouver donc sur bdo.fr, vu que c'est là où tu passes la majorité de ton temps.
Tous les jours, plein d'actu, plein de trucs sur la BD, ça bouge. Voilà. C'est vrai qu'éditorialement, on a quand même commencé à relancer pas mal de choses. Il y a plein de top 10, il y a plein de corners aussi. Enfin voilà, le flow vidéo avec la BD jeunesse, un corner un peu plus adulte. Alors, on essaie d'un peu de dynamiser tout ça et il va y avoir de plus en plus de choses qui vont arriver. Là, on a encore des projets sous le pied.
D'accord, on te retrouve aussi donc sur merton.fr.
C'est ça, exactement. Donc, ça si tout se passe bien.
Voilà, toutes les semaines?
Ouais, toutes les semaines, ouais.
Toutes les semaines où tu feras donc la chronique de 2-3 BD.
Après, ça va dépendre un peu des sorties et de tout ça, mais je reviendrai peut-être sur d'autres BD un peu plus vieilles. Voilà, on est encore en train de se chercher sur ça, mais de toute façon, vu le nombre de BD qu'on lit, on ne devrait pas forcément se tarir très rapidement.
Et on te trouve aussi sur Twitter, merton_fr.
Ouais, et je tweete beaucoup. Voire même beaucoup trop. Mais voilà, c'est un peu. Je suis un fanat de ce truc. Hein. On met un pied dedans et après on n'arrête plus. Quoi.
D'accord, oui, je connais le problème. Et, donc, et nous, sur lavoiedesbulles.fr en ce qui nous concerne, vous aurez plein de liens, comme d'habitude, sur tout ce dont on aura parlé dans l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. La 29e. Oh, on va encore avoir des trucs super bien. Ouais, tiens, allez, on me dit un petit avant-goût du programme. On va parler du dernier Daredevil. On va parler des pilules bleues qu'on n'avait pas lues jusqu'ici.
Ouais.
On va parler du dernier Tenuta. Oui, Tenuta.
On va parler aussi de Last Day of American Crime, tome 3.
Voilà, enfin bon, beaucoup de choses qu'on rattrape. Merci à vous de nous avoir écoutés. Donc à la semaine prochaine. Merton tous les jours sur bdo.fr. À bientôt, au revoir.
Bientôt, ciao.
Ciao.
Là.
Ah, ça y est, là je t'entends.
Bon, bah, c'est peut-être mon micro qui a rendu l'âme. Attends.
Là, je t'entends plus.
Bon, on dirait que c'est mon micro qui a rendu l'âme.
Ok.
Bon. D'accord.
Son micro 40. Voilà. Donc sur ce coup-là, tu pouvais chercher, vas-y.
Ouais, là, j'ai l'habitude que le problème vienne de moi en général, parce que j'ai une configuration tellement hasardeuse.
Et puis moi, j'ai rien fait du tout, alors c'est un peu bizarre qu'il ait rendu l'âme comme ça, mais je comprends pas trop.